Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, la traque qui se poursuit à Avignon.
Les policiers recherchent un homme qui a battu un de leurs collègues qui intervenait sur un point de vente de stupéfiants. L'horreur et la consternation à Mérignac après la mort d'une mère de famille tuée par son mari récidiviste. Il sortait de prison. Et puis Joe Biden ouvre la voie à une levée des brevets sur les vaccins anti-Covid. Une décision historique pour l'OMS.
RTL Matin.
La colère, l'incompréhension, deux jours après la mort d'une jeune mère de famille à Mérignac, Chahinez. Elle avait 31 ans, trois enfants. Mardi, en pleine rue, son mari lui a tiré dessus avant de la brûler vive. Il avait été libéré en décembre, il avait purgé une peine pour violence justement sur sa compagne. Avant de tenter de comprendre comment ce récidiviste a pu passer à l'acte malgré le suivi de la justice, on va réécouter l'émotion du maire de Mérignac, Alain Anziani. Il était l'invité ce matin de RTL.
Une tragédie profonde qui va marquer la vie de toute une famille. Moi, je pense beaucoup, évidemment, à cette femme qui a été tuée d'une façon très cruelle et d'autre part aux enfants, aux trois enfants qui restent là et qui doivent vivre maintenant avec ce drame. Colère aussi parce que l'assassin, il faut bien le nommer comme ça, l'assassin a été libéré en décembre après avoir purgé une peine de 6 mois de prison pour déjà des faits sur son épouse. Et 6 mois après sa mise en liberté, le voilà qui... aujourd'hui, continue dans ses exactions jusqu'à tuer cette femme.
Le maire de Mérignac ce matin sur RTL, c'est le 39e féminicide depuis le début de l'année. On a entendu dans nos reportages, les voisins ont raconté que la jeune femme se savait menacée. Elle avait été agressée de nouveau en mars dernier, elle avait porté plainte. Bonjour Cindy Hubert.
Bonjour.
Cet homme, il avait été condamné l'an dernier à 18 mois de prison, dont 9 avec sursis. Il devait faire l'objet d'un suivi. Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors vous avez raison, cet homme devait encore rendre des comptes à la justice puisqu'il faisait l'objet d'un suivi assez poussé. On appelle cela un sursis probatoire, obligation de soins, interdiction de rentrer en contact avec son ex-compagne, interdiction de mettre les pieds chez elle. Mais l'homme n'a rien respecté de tout cela. Nouvelle agression en mars dernier, nouvelle plainte. Et pourtant, pas de retour à la case prison. L'homme est introuvable. La mère de ses enfants, elle n'a pas de téléphone grand danger. Elle n'a pas de moyen de savoir qu'il va venir s'en prendre à elle, puisque l'homme n'est pas équipé d'un bracelet anti-rapprochement, tout simplement parce que le dispositif n'existait pas à l'époque, au moment de sa condamnation. Depuis, le déploiement est de toute façon très lent en France. 37 hommes le portent aujourd'hui à la cheville.
Merci pour ces explications, Cindy Hubert.
Il est 8h02, direction Avignon à présent, où la traque se poursuit pour tenter de retrouver l'homme qui a abattu un policier.
Ça s'est passé hier vers 18h30. Le fonctionnaire de 36 ans, père de deux enfants, intervenait avec des collègues sur un point de vente de stupéfiants. L'un des dealers lui a tiré dessus avant de prendre la fuite à trottinette. Vous êtes sur place, Étienne Baudu, bonjour.
Bonjour.
Des dizaines de policiers sont toujours à sa recherche ce matin.
Ah oui, même sans doute plusieurs dizaines. Dès hier soir, les policiers ont mené dans le quartier une importante enquête de voisinage. On les a vus aussi inspecter à la lampe torche le cours d'eau voisin, la Sorgue. On a même aperçu un groupe d'intervention casqué équipé de boucliers en Kevlar investir un petit immeuble. Des habitants nous ont expliqué que certains dealers habitent dans les ruelles alentours. Les enquêteurs devraient également repasser toutes les bandes vidéo des caméras de surveillance de la ville pour tenter de retracer le parcours du tueur qui s'est enfui en trottinette. Autre piste que les policiers vont suivre, dès hier soir, une jeune femme a été interpellée. Il s'agirait de l'acheteuse. C'est au cours d'une transaction que les groupes départementaux d'intervention a été pris à partie. Alors dans le quartier, c'est l'exaspération. Ce matin, il fallait que ça arrive, explique Nicolas, qui habite et travaille ici. La situation n'a fait qu'empirer.
Alors sur 30 ans, c'est commencé par des petits, tout petits. C'est devenu extrêmement violent de plus en plus. Même moi, qui ai beau avoir des gros bras ou avoir des grosses épaules et qui n'ai pas forcément peur de ce qui va me tomber dessus, je me posais des questions à la fin quand même. Parce qu'on tombe sur des gens quand même extrêmement violents à bout d'un moment.
Et chez les policiers, c'est évidemment ce matin la colère qui domine, la colère et la douleur.
Merci beaucoup Étienne Baudu en direct d'Avignon pour RTL. À Chambéry, au procès de Nordal Lelandais, les témoins ont défilé hier à la barre. Des proches du tueur présumé ont parfois fait le portrait d'un homme attachant. On a même vu le prévenu verser quelques larmes. Même s'il n'a pas dévié de son axe de défense, la mort d'Arthur Noyer est le fruit, selon lui, d'un accident après une dispute. Une journée d'audience qui a visiblement marqué la mère de la victime, Cécile Noyer.
Je suis émue, moi, par tous ces témoignages. Les copains de Nordal Lelandais qui l'ont aimé. Qui se sentent trahis, enfin voilà, qui comprennent pas. Et ils ont tous été d'une dignité, et je les remercie. Vraiment, ils m'ont tous ému. Alors, les amis d'Arthur ont parlé aussi. Et Arthur, ce qu'on en ressort, c'est que c'est un gentil garçon, plein de vie, un gamin de 23 ans qui aimait la vie. Et il y a le témoignage de la barmane qui m'a ému parce que je voyais Arthur. Et je voyais Arthur vivant parce que je le reconnaissais dans tout ce qu'elle me disait.
Propos recueillis pour RTL par Serge Puyot. Cet après-midi, Nordal Lelandais doit être soumis à un interrogatoire précis sur la nuit de la mort d'Arthur Noyer en avril 2017.
Dans un instant sur RTL, cette décision de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qu'elle qualifie d'historique, les États-Unis veulent suspendre les brevets des vaccins anti-Covid. A tout de suite.
RTL Matin.
Il est 8h06, la suite du journal de Jérôme Florin. C'est l'annonce surprise de la nuit, elle nous vient des États-Unis, Jérôme.
Joe Biden se dit pour la suspension des brevets des vaccins anti-Covid, ce qui permettrait de multiplier considérablement leur production à travers le monde. Mais si l'annonce est belle, Lionel Gendron, elle pourrait être compliquée à concrétiser, car il faudrait que les gros labos donnent leur feu vert. Et au sein même de la Maison-Blanche, eh bien, la question fait débat.
Oui, Joe Biden va-t-il avoir gain de cause? C'est lui qui a arbitré, mais tous ses conseillers n'étaient pas d'accord. En tout cas, le geste est salué par l'Organisation mondiale de la santé. Une bouffée d'espoir pour l'Inde et l'Afrique du Sud, les premiers à demander la suspension des brevets, c'est-à-dire qu'on donne la recette du vaccin. Évidemment, des milliards sont en jeu pour les laboratoires, dont trois américains. Ils n'ont pas directement réagi. À minima, on les imagine surpris, mais auront-ils leur mot à dire? Attention, l'avis de Washington n'est pas un feu vert. Il va falloir un accord au sein de l'Organisation mondiale du commerce. La France, par exemple, plaide plutôt pour une accélération des dons et des transferts de technologies. La recette est une chose, encore faut-il pouvoir l'appliquer dans des usines adéquates. Washington donne en tout cas un coup d'accélérateur pour lutter contre cette inégalité. Près d'un adulte américain sur deux a été vacciné, seulement 8% à l'échelle mondiale.
Lionel Gendron à New York pour RTL. Les conséquences économiques de la crise sanitaire qui secoue toujours le secteur aérien. Air France, KLM annonce ce matin une perte d'1,5 milliard d'euros au premier trimestre en évoquant, je cite, un environnement toujours difficile.
Le ton monte entre les Français et les Anglais. Hein.
Et voilà qui ne manque pas de sel alors que l'on commémore la mort de Napoléon, l'ennemi éternel des Anglais. En cause, l'accès des pêcheurs européens aux eaux britanniques. L'accord sur le Brexit les autorise en principe à avancer leur filet dans les eaux de l'île anglo-normande de Jersey. Mais Londres fait de la résistance. Plus de 300 navires français veulent y accéder, mais à peine 40 ont obtenu un feu vert et encore assorti de nouvelles conditions que déplore la ministre française de la mer, Annick Girardin. Elle menace, et ce n'est pas une blague, de couper le courant.
L'Europe, la France, a des moyens. C'est inscrit dans l'accord. Alors, en ce qui concerne Jersey, je rappellerai par exemple le transport d'électricité par câble sous-marin. Et donc, nous avons des moyens. Et même si je regrette, si on devait y arriver, eh bien, on y sera s'il faut le faire.
Des menaces intolérables vues de Londres. Et l'affaire prend ce matin des airs de bataille navale puisque des centaines de bateaux français ont prévu de manifester aujourd'hui au port de Saint-Hélier, la capitale de Jersey. Marie Billon, vous êtes la correspondante de RTL Outre-Manche. En réponse, Boris Johnson envoie sur place, lui, deux patrouilleurs de la marine britannique.
Oui, c'est une mesure de précaution, a dit le Premier ministre britannique. Le patrouilleur HMS Severn est déjà arrivé aux abords de l'île et sera rejoint dans la journée par HMS Tamar, deux grands navires de guerre armés donc pour surveiller la situation. Si la France juge ce déploiement disproportionné, Jersey utilise le même mot. Il serait disproportionné de couper le courant juste parce qu'il faut fournir des détails supplémentaires afin que nous puissions affiner les licences de pêche. Le point de contention, ce sont bien ces détails supplémentaires. Le Royaume-Uni a reçu 344 demandes de permis. Vendredi, une liste contenant seulement 41 autorisations a été publiée. Pour obtenir cette licence, il faut, selon l'accord du Brexit, qu'un bateau ait pêché au moins 10 jours dans les eaux de Jersey entre 2012 et 2016. Mais le gouvernement de l'île demanderait à ce que la période de pêche dépasse les 10 jours requis et s'enquérait aussi des espèces attrapées. Une porte-parole de Jersey a assuré prendre le mécontentement des Français très au sérieux. Saint-Hélier va y répondre, dit-elle, mais elle a aussi précisé que l'île avait agi de bonne foi en mettant en place ce régime.
Oui, toujours compliqué après le Brexit. Merci Marie Billon.
Une enquête antiterroriste ouverte en France sur l'enlèvement d'un journaliste au Mali.
Olivier Dubois était en reportage dans la région. Il a été enlevé début avril à Gao. Il s'est exprimé dans une vidéo. Il est retenu par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM. Il est le premier otage français dans le monde depuis la libération de Sophie Pétronin, qui avait été enlevée également à Gao. La politique en France et la campagne des régionales. Les offensives de la majorité provoquent des remous. À droite, le maire de Toulon, Hubert Falco, vous le savez, a annoncé qu'il quittait les Républicains, qui refusent une alliance avec LREM en PACA. Et dans les Hauts-de-France, Xavier Bertrand devra composer avec une nouvelle menace, l'entrée en campagne d'Éric Dupond-Moretti, ministre et marcheur, censé faire reculer le Rassemblement national, dont le candidat, Sébastien Chenu, se montre serein.
On a bien compris que La République En Marche avait misé lourd, avait sorti l'artillerie lourde pour essayer de contrer ma candidature et celle du Rassemblement National dans les Hauts-de-France. Mais on n'a pas besoin d'Éric Dupond-Moretti dans les Hauts-de-France. Il est obsédé par le Rassemblement National d'une façon presque irrationnelle. Il en a fait un combat tout à fait personnel, au-delà même du raisonnable. Nous, et moi-même en particulier, je présente un programme et des candidats qui sont tournés vers le développement et la protection de notre région, que M. Dupond-Moretti continue à brasser du vent.
Sébastien Chenu, candidat Rassemblement National dans les Hauts-de-France. Il était avec Benjamin Sportouche. En football, la finale de la Ligue des Champions sera 100% made in England, puisque Manchester City, vainqueur du PSG, affrontera Chelsea, qui a battu hier soir le Real Madrid 2-0. Chelsea entraîné par un certain Thomas Tuchel, l'ancien patron du PSG qui doit savourer sa revanche. La finale de la Ligue des Champions, ce sera le 29 mai à Istanbul. Et puis cette info RTL que nous donnait Sophie Orange tout à l'heure concernant les clubs sportifs qui vont pouvoir ouvrir à partir du 19 mai, le gouvernement veut encourager les familles à inscrire leurs enfants avec un pass sport de 50 euros à la rentrée en fonction des revenus. Ce serait une bouffée d'oxygène pour toutes ces associations qui comptent 16 millions de licenciés en France.
Il est 8h12 et c'était le journal de Jérôme Florin. On se retrouve à 9h. À tout à l'heure, Jérôme.
RTL Matin, Yves Calvi.
Avec notre brigade ce matin, nous allons vous donner des perspectives pour trouver un emploi ou peut-être changer de vie. Bonjour Arnaud Touche.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
Les perspectives sont plutôt bonnes pour les recrutements cette année, Arnaud.
Oui, il y a 2 723 000 projets d'emploi cette année. C'est 30 000 de plus qu'en 2019. Et sur ces postes, 43% devraient être des CDI selon Pôle emploi. Et ces recrutements envisagés se font majoritairement dans les très petites entreprises. Presque la moitié de ces emplois vont s'ouvrir dans les entreprises de moins de 9 salariés.
Alors, quels sont les secteurs qui vont le plus embaucher cette année et surtout, quel type d'emploi ?
Eh bien, majoritairement, ce sont les services à la personne. Les plus fortes hausses dans les recrutements sont pour les métiers de la construction cette année, plus 22%, suivi de ceux de la santé, plus 15%. Et voici le top 5 des métiers qui recrutent le plus en 2021. Tout d'abord, les aides-soignants qui prennent la tête du classement, suivi des aides à domicile et des aides ménagères. À la troisième place, on retrouve les manutentionnaires. Ensuite, il y a les employés de libre-service. Et enfin, le top 5 se termine par les agents de sécurité.
Il y a de grandes différences entre les régions ?
Oui, car par exemple, en Ile-de-France, on recherche 26 000 chefs de projet informatique, 21 000 artistes et 18 000 agents d'entretien. Mais si vous prenez par exemple la région Grand Est, le top 3 n'est pas du tout le même. On recherche des viticulteurs, mais aussi des agents d'entretien, puis des professionnels de l'animation socioculturelle. Enfin, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, là, on recherche des serveurs et des employés de la restauration, ou encore des agriculteurs.
Alors, quels sont les secteurs qui ont le moins recruté l'année dernière ?
Eh bien, ils sont en lien avec la crise. Oui. Il y a bien entendu la restauration et l'hôtellerie, l'audiovisuel et la communication, mais aussi les métiers liés à la culture. Au total, 12% des entreprises en France ont gelé leur recrutement en 2020. 25% ont recruté moins que prévu. Mais vous l'avez compris, les perspectives sont donc bien meilleures pour cette année.
Merci beaucoup Arnaud.